France Culture, les matins du samedi, Caroline Mouret.
Chère Natacha, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et on commence avec la presse du jour.
Avec l'hommage de Libération à Agnès Varda. Un cliché noir et blanc, le sourire malicieux de la cinéaste et ce titre, Sans toi, Varda. Une référence à la chanson de Cléo de 5 à 7 et à Sans toi, Nilois, ses deux chefs-d'œuvre. De ses engagements politiques à ses expérimentations en art plastique autour de la pomme de terre, en cette page, Libé dresse le portrait d'une grande à part. L'autre fil rouge dans la presse ce matin, ce sont les européennes. Le Parisien aujourd'hui en France titre « Tous unis contre l'Europe ». Les droites extrêmes et souverainistes veulent se rassembler avant le scrutin du 26 mai. Les ennemis de l'Europe rêvent d'union. Un paradoxe. Celui qui veut remporter la bataille culturelle face aux populistes, c'est Stéphane Séjourné, le directeur de campagne de La République En Marche, cité dans les pages du Figaro. Toutes ces stratégies politiques sont très bien résumées dans l'article du Monde. Vote utile contre votre sanction, LRM et RN rejouent 2017. Pour le journal, pas de doute, les deux partis cherchent à dramatiser l'enjeu du vote et le résumer à un duel entre progressistes contre nationalistes, européistes contre eurosceptiques.
Emmanuel Wargon, c'est exactement la ligne de La République En Marche, hein, ce clivage entre les progressistes et les populistes aujourd'hui. Vous y croyez aussi ou ça risque pas de creuser un peu plus les failles entre les Français ?
Je pense que la question, c'est pas d'avoir une ligne contre. La question, c'est de savoir ce que la liste de La République En Marche propose. Elle propose une nouvelle vision européenne, plus sociale, plus écologique, moins libre-échangiste, au sens où l'Union européenne est probablement l'un des derniers marchés extrêmement ouverts face à d'autres continents, les États-Unis ou la Chine, qui ont une forme de protection de leur marché à laquelle on n'a peut-être pas été assez vigilant. Donc on propose une réorientation du projet européen ou une nouvelle orientation du projet européen. Mais bien sûr, l'un des points communs de tous ceux qui sont sur cette liste, c'est qu'ils croient au projet européen. Et c'est pas vrai de toutes les autres listes.
Il y a ceux qui croient au projet européen et puis il y a ceux qui croient au projet de réforme de la fonction publique, à l'instar du gouvernement qui a présenté justement ce projet en Conseil des ministres. Le journal en ligne AOC, Natacha, propose une analyse de la part du sociologue Luc Rouban.
Oui, il est très critique pour lui ce projet n'est rien d'autre qu'une boîte à outils d'une évolution néolibérale à la française. Dans ce projet, l'idée de privatisation est omniprésente. La réforme prévoit de systématiser le recours aux contractuels et ce, sans titularisation obligatoire. Rien de neuf, vous me direz, sauf que cela concerne aussi les postes de direction. À terme, cela peut créer une fonction publique à deux vitesses, nous dit le sociologue. Il rappelle aussi que dans les années 80, c'est par ce biais, par l'externalisation, que les administrations britanniques ont peu à peu été privatisées. En revanche, dans ce projet, sur la haute fonction publique, rien n'est dit. Alors pour finir, je le cite, « Refonder réellement la fonction publique impose de la penser à partir du haut, car ce sont les sommets qui doivent donner l'exemple. Pour l'heure, on peut craindre que la fracture entre la fonction publique d'en haut et la fonction publique d'en bas s'élargisse encore un peu. »
Et dans la revue Books, pour terminer, de ce mois d'avril qui débute, on trouve ce dossier « Que reste-t-il de l'ascenseur social ?»
Avec au cœur de cette question le concept de méritocratie. Alors c'est un terme qui est utilisé pour la première fois en 1958 par le sociologue Michael Young. Alors aujourd'hui, l'idéal méritocratique voudrait que les sociétés aient aboli les hiérarchies sociales pour laisser place au règne du talent. Sauf que pour Michael Young, méritocratie désignait surtout une dystopie, un piège. Il redoutait une nouvelle forme d'aristocratie, la mainmise du pouvoir par une nouvelle classe dirigeante légitimée par les diplômes. En bref, un nouveau système de caste. En 30-40 ans, la mobilité sociale a chuté. Et dans tous les pays de l'OCDE, on constate ce phénomène. En France, les fils de cadres supérieurs deviennent 5 fois plus souvent cadres que les fils d'ouvriers. Alors c'est un dossier avec graphiques et statistiques à l'appui qui nous invite à réévaluer cette notion et surtout à repenser les mesures habituelles de la mobilité sociale.
Et deux sujets bien sûr, Natacha, qui se rejoignent.